Chers auditeurs, dans quelques jours, vous pourrez découvrir une série inédite de La Loupe consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. À 3 mois de la cérémonie d'ouverture, on s'est demandé comment réussir ces JO. Les transports sont-ils prêts à affronter les milliers de touristes? Le dispositif de sécurité est-il suffisant? L'enthousiasme sera-t-il finalement au rendez-vous? Pour répondre, on plonge durant 5 épisodes dans les archives des éditions précédentes, accompagnés des journalistes de l'Express. C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. C'est l'histoire d'un lézard. Un petit lézard vert foncé de l'espèce Anolis scriptus, très courant dans les Caraïbes. En 2017, 2 ouragans particulièrement violents balayent toute la région. La plupart des lézards disparaissent. Mais celui-là survit, tout comme une part infime de ses congénères. Pourquoi ? Parce que ce reptile n'a pas la même morphologie que les autres. Son corps a évolué. Sous ses doigts, ses coussinets adhésifs sont plus larges et collent mieux aux surfaces sur lesquelles il se trouve, et ses pattes arrière sont plus courtes, offrant moins de prise au vent. D'après les scientifiques qui ont étudié notre lézard et les autres survivants de son espèce, ces caractéristiques un peu différentes pourraient se transmettre à leurs descendants. Bref, notre Anolis scriptus n'a aucun moyen de lutter contre la multiplication des phénomènes extrêmes dus au réchauffement climatique, mais il s'adapte. Comme souvent, vous vous demandez où je veux en venir, et cette fois je vous comprends. Vous voyez arriver la comparaison avec notre espèce, celle des humains, mais vous voyez aussi 2 différences de taille, et vous avez raison. D'abord, contrairement au lézard, l'homme dispose de leviers pour agir face à la crise climatique. Sauf que force est de constater qu'il ne les utilise pas.
La France respecte-t-elle ses engagements de réduction d'émissions de CO2 ?
Pour l'instant, non.
La deuxième différence, c'est qu'aucun humain n'est en passe de devenir totalement insensible aux températures extrêmes ou de se faire pousser des branchies pour survivre à la montée des eaux. Ce qu'il y a de commun, en revanche, c'est désormais l'urgence à s'adapter. Pour pouvoir vivre sur le littoral, produire suffisamment de nourriture et échapper aux flammes des incendies, s'adapter pour survivre. Je le connais par cœur, j'ai déjà préparé un chronomètre de La Loupe spécialement pour Lucas.
Salut Xavier.
Salut Lucas, Lucas Mediavilla, spécialiste de la transition énergétique au service économie de l'Express.
Elle est super ton histoire de lézard là, Xavier.
Ouais, t'as vu, on ne recule devant rien à La Loupe. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi.
Attends, juste un peu parce que je voulais rebondir sur l'extrait là que tu viens de passer.
Ouais, je t'écoute.
On va repartir un peu sur l'introduction. En fait, pour bien comprendre ces histoires de CO2, il faut distinguer 2 choses. C'est la question des stocks de CO2 et de flux de CO2. C'est-à-dire quand on parle des engagements de réduction de CO2, l'année dernière, la France et le monde entier ont dépassé les engagements de réduction des émissions de CO2. On a émis le monde environ 34 milliards de tonnes de CO2, donc ça c'est un flux. En réalité, le stock de CO2 dans l'atmosphère, il est beaucoup plus important car on en ajoute chaque année et finalement la disparition, elle est beaucoup plus lente. Donc même si demain on émet 0 g de CO2, si le monde se met à émettre 0 g de CO2 dans l'atmosphère, ce stock de CO2 qui va mettre du temps à disparaître, eh ben, il va contribuer au réchauffement du climat. Donc quoi qu'il arrive, le réchauffement il est inévitable. Alors après, ça sera selon ces scénarios, est-ce que ça sera 1,5 degré, 2 degrés, 4 degrés dans les plus mauvais scénario, mais en tout cas, le réchauffement, lui, il est inévitable et malheureusement, les dégâts irréversibles qui vont avec.
Oui, et d'ailleurs, on t'a préparé.
Je finis juste avec un petit point important. Même dans un monde finalement parallèle, hein, où la France prendrait un virage tellement radical que demain, on se lèverait en 2023 et on n'émettrait plus de gaz à effet de serre, donc de CO2, en fait, ça ne suffirait pas à limiter les effets du réchauffement pour la France. Mmh. Pourquoi ? La France, finalement, elle a une responsabilité historique, hein, et une forme d'impératif moral à réduire ses ses émissions de CO2 parce que c'est un grand pays industriel et depuis l'ère industrielle, elle a fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de CO2 qui s'accumule dans le stock mondial. Elle doit aussi montrer l'exemple finalement par rapport aux autres pays et montrer qu'elle prend toute sa part dans cette transition énergétique. En revanche, sur la question de flux et désormais plus sur la question de stock, elle ne représente que 1% du flux des émissions mondiales chaque année. Donc même si la France demain passe à zéro, finalement, il y a encore des grands pollueurs que sont l'Inde, la Chine, les États-Unis. Si eux aussi n'agissent pas pour limiter leurs émissions de CO2, finalement, la trajectoire de réchauffement, elle sera toujours aussi importante et les dégâts également.
Contrairement aux lézards, nous sommes donc responsables de notre sort. Mais comme eux, nous sommes impuissants.
Oui, exactement. On sait que la France va être confrontée en 2050 et en 2100 à un réchauffement de son climat avec des phénomènes qui sont déjà assez connus. La hausse du niveau de la mer, évidemment. Le réchauffement aussi avec des épisodes de canicule, des épisodes de sécheresse. Et c'est pour ça qu'à côté de l'atténuation, la réduction des émissions de CO2, il y a tout un volet sur l'adaptation. C'est ton histoire de lézard. C'est comment on fait en sorte que la France, en 2050, en 2100, elle ait un système économique, un système social qui soit plus robuste, qui soit plus adapté à la survenue de ces événements climatiques et aux dommages qu'il cause, d'ailleurs qu'on a vu très concrètement se produire cet été.
Ah, c'est le moment de sortir mon chronomètre.
Quel chronomètre ?
Celui dont j'essaie de te parler depuis le début de cet épisode. Ah. Écoute.
Plusieurs communes du Morbihan sont en ce moment même menacées par ces incendies.
Le sud-est du territoire est également touché par les feux.
La France se prépare à un quatrième épisode de canicule.
À Brest, le record de chaleur enregistré en 1949 a été battu.
Les 7 premiers mois de l'année ont été les plus secs jamais observés dans plusieurs régions de France par manque de pluie.
Dans le Doubs, des lits de rivières asséchés, des terres craquelées.
Le pompage de nombreux cours d'eau de la Dordogne destinés à l'irrigation des cultures est formellement interdit.
Des chaleurs accablantes qui fragilisent également les cultures. Dans ce champ de maïs, certaines plantes sont même brûlées.
Bah écoute Xavier, c'est exactement le type d'événements qui vont se produire, se répéter dans les années de 2050-2100. On a un aperçu ici de ce qui va devenir la normalité, qui ne sera plus exceptionnelle. Et encore, il manque quelques conséquences finalement importantes du réchauffement climatique dans ton chrono, Xavier.
D'accord, lesquels ?
Le plus simple, c'est qu'on fasse un petit tour de France des risques liés au réchauffement climatique, aux impacts du réchauffement climatique et qui nécessitent qu'on s'adapte dès aujourd'hui.
Allez, c'est parti.
Tu vois là, Xavier, je t'ai apporté une carte de France de tous les endroits en fait où l'Express a envoyé des reporters sur ce sujet cet été.
On peut dire que vous avez été réactif.
En fait, on avait décidé d'aller observer cette adaptation avant tout ce qu'on a entendu dans ton chrono, parce qu'on a décidé cette série d'été vraiment fin mai, début juin.
Avant l'été.
Exactement. Et le but de cette série, c'était d'identifier en fait les grands risques pour notre pays, certains qui sont plus économiques, certains plus écologiques, d'autres plus sur un facteur humain, et les solutions qu'on pouvait mettre en place dans ces territoires. Et en fait, on ne savait pas que l'été serait aussi terrible sur tous les points qu'on a évoqués.
C'est ce qu'on appelle l'anticipation journalistique. On commence par où ?
Pas trop loin de Paris, on va commencer dans la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne.
J'ai entendu parler de beaucoup d'incendies cet été, mais alors Fontainebleau, ça me dit rien.
Il y en a eu un début juin, ça n'a pas été aussi médiatisé qu'en Gironde et dans le reste de la France, mais il y en a eu un sur une parcelle. Alors il y a 1,5 hectare qui a brûlé, ce qui n'est pas énorme comparé aux 65 000 qui ont brûlé sur tout l'été en France. Il a été causé par des campeurs, il a été assez vite maîtrisé, mais c'est finalement un cas assez typique, c'est-à-dire c'est l'illustration un peu de l'éclosion d'un feu qui est facilité par la canicule, c'est-à-dire qu'il y a une végétation qui est très sèche, et en fait le moindre départ de feu, la végétation elle se transforme en un combustible qui brûle de façon très rapide. Et donc en fait ces feux-là, généralement, on disait qu'il y avait quand même moins de risques dans la partie nord de la France que dans le sud, mais en fait, ce risque, il augmente avec le réchauffement climatique, comme en témoignent d'ailleurs les incendies survenus en Suède et en Irlande. Et sans aller aussi loin, en fait, d'après le dernier rapport du GIEC, demain, Fontainebleau, c'est une forêt qui va avoir un climat qui est similaire à l'Aquitaine en 2070, selon un scénario qui est plus ou moins probable. Et dans le pire des cas, dans un scénario pessimiste, on aura le même climat à Fontainebleau que sur les forêts méditerranéennes, donc avec les risques d'incendies qui sont là-bas très, très, très important.
Et comment on s'adapte face à ce risque alors ?
Depuis 10 ans, à Fontainebleau, en fait, l'ONF, donc l'Office National des Forêts, travaille main dans la main avec les pompiers. C'est encore une coopération qui est assez rare dans le Nord. Et en fait, du côté de l'Office National des Forêts, on va tout mettre en place pour aménager des pistes, pour faciliter le passage des camions, des panneaux de sensibilisation. On va enterrer aussi des citernes de la taille de semi-remorques pour utiliser l'eau si jamais il y a des incendies. Côté pompiers, on va muscler aussi les effectifs de pompiers qui sont formés aux feux de forêt. On va aussi acheter des camions qui sont ceux qui sont actuellement utilisés dans le Var et on s'entraîne. Bientôt, il va y avoir des exercices avec des canadaires qui vont s'entraîner à écoper l'eau dans la Seine pour pouvoir aller s'exercer bientôt au-dessus de la forêt. Donc ça, c'est un peu le panorama des outils qu'on met en place.
Ça, c'est pour l'adaptation au risque d'incendie, y compris dans des zones jusqu'ici relativement épargnées. Donc, Si on prend les autres sujets dont on a beaucoup parlé cet été, tu as un autre exemple pour la sécheresse ?
Tout à fait. Par exemple, notre collègue du service sciences, Valentin Ekirch, cet été, il a pu aller à côté de Montpellier pour regarder quel était l'impact finalement de la sécheresse sur la culture des vignes. C'est une culture qui est assez bien normalement adaptée aux épisodes de sécheresse. Mais là, la situation, elle est telle que ça oblige les agriculteurs à repenser complètement leur mode opératoire. Et donc là, ce qu'ils mettent en place, ça va être un recours à l'arrosage de plus en plus régulier et qui va devenir même indispensable pour maintenir les standards du vin. C'est-à-dire que plus les vignes sont chaudes, plus le taux d'alcool dans le vin est élevé. Et donc, en termes de vente, c'est quand même pas génial. Et donc, en fait, les viticulteurs, ils vont utiliser des instruments d'irrigation, alors du goutte à goutte pour pas pomper trop sur la ressource en eau. Ou alors, ils vont réutiliser des eaux usées pour pouvoir, encore une fois, arroser leurs vignes. Donc ça aussi, c'est un exemple d'adaptation.
Si on reste sur la thématique de la chaleur, est-ce que tu as aussi identifié des illustrations en ville pour les populations qui ont particulièrement souffert cet été?
Oui, on va remonter un peu vers le nord sur notre carte. On va aller à Lyon. Selon les projections de Météo France, à l'horizon de la fin du siècle, les vagues de chaleur, elles vont être multipliées par 2, voire 5, voire 10. C'est tout à fait considérable. Un habitant sur 7 vit dans un territoire exposé à plus de 20 journées anormalement chaudes par été dans les décennies à venir. Donc, on peut s'attendre quasiment à un mois de canicule l'été à Lyon. Ce phénomène, il est aggravé par ce qu'on appelle les phénomènes d'îlots de chaleur urbain. C'est-à-dire que la température, elle est plus élevée en ville la nuit et même le jour que dans les campagnes alentours, à cause évidemment du bitume et du béton qui emmagasinent la chaleur, mais aussi les rejets de chaleur qui sont liés aux activités urbaines et industrielles, ou tout simplement au rejet de la climatisation, c'est-à-dire que la climatisation, elle va refroidir les pièces dans lesquelles tu te trouves, mais elle va prendre cet air chaud, elle va le restituer à l'extérieur. Donc il va y avoir tous ces phénomènes-là qui vont aggraver le phénomène de chaleur.
Un mois de canicule par été, ça fait froid dans le dos, sans mauvais jeu de mots. Comment la ville de Lyon anticipe ça ?
Par des méthodes, ce qu'on appelle un peu de l'adaptation, ces méthodes vertes, c'est-à-dire qu'ils vont parier sur le fait de planter des arbres. Alors, ce qui a un bénéfice, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça contribue aussi à l'atténuation, puisque planter des arbres, ça permet de séquestrer du CO2. Et donc, Lyon, ils vont planter, là, par exemple, 600 arbres sur une avenue de 800 mètres. Alors, il y aura des chênes, des margousiers, des féviers, des mi-coucouliers de Chine. Et d'ici 2030, en fait, la ville, elle entend même augmenter de 100 000 à 300 000 le nombre d'arbres dans la métropole. Il y a aussi un plan de gestion de l'eau, de remplacer, le bitume par des revêtements poreux ou de l'herbe, par exemple. À côté de ça, il y a aussi les mesures d'adaptation grise, ce qu'on appelle grise. Et là, par exemple, ça va être l'utilisation de peinture anti-chaleur sur les bâtiments qui reflètent la lumière et donc, du coup, qui emmagasinent moins la chaleur.
Des mi-coucouliers de Chine, après l'Anolis scriptus, on continue de découvrir des nouvelles espèces. Je vois deux autres points sur ta carte, Lucas. Ça, ce sont les risques dont tu m'as parlé tout à l'heure, ceux qu'on n'a pas vus dans les journaux télévisés cet été ?
Oui, tout à fait. Et pour cause, c'est des risques dont on parle peut-être un peu plus l'hiver. Le premier, c'est sur la côte atlantique, du côté de La Rochelle, en Charente-Maritime. Et en fait, effectivement, il se manifeste plutôt en hiver parce qu'on va parler de submersion marine. Donc, le phénomène de submersion marine, il faut savoir qu'avec la dilatation de l'océan et la fonte des glaces, finalement, la montée des eaux, elle est assez inexorable. Et en fait, dans ce territoire-là, à La Rochelle, on a le souvenir de Xintia en 2010, cette tempête qui avait fait pas mal de morts et qui avait causé des dégâts très importants. Et donc, en fait, là-bas, sur place, La Rochelle et la communauté d'agglos de La Rochelle a mis en place ce qu'on appelle des mesures, des digues pour empêcher le phénomène de submersion marine. Alors, tu vois, dans le port de La Rochelle, quand tu es sur place, il y a des enrochements, des murets anti-submersion, des systèmes d'infiltration d'eau si jamais l'eau passe par-dessus les murets. Et ces systèmes-là, ils ont compté 11 millions d'euros à la collectivité. L'idée, c'est d'avoir un niveau de protection qui permet de contenir un risque de submersion qui soit 20 cm plus haut que Xintia. Donc, ça, c'est des mesures qui ont été mises en place déjà.
Et ça, ce sont les seules mesures d'adaptation qui ont été développées ?
Non, plus au sud, il y a un autre phénomène que celui de la submersion marine, c'est le phénomène d'érosion, l'érosion du littoral. Et donc là, on met soit des programmes de défense en dur, c'est-à-dire qu'on va réensabler les plages, par exemple. Parfois, tu es obligé de battre en retraite face à l'érosion du littoral. Depuis 2010, il y a 300 maisons qui ont été déconstruites. Et il y a beaucoup de spécialistes qui estiment aujourd'hui qu'il faut tenir un discours plus offensif sur les littoraux menacés. Il y a notamment une étude qui chiffre à peu près à entre 5 000 et 50 000 logements en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer qui pourraient être touchés par ce phénomène d'érosion maritime. Et donc ça, c'est une valeur immobilière qui est estimée entre 800 millions et 8 milliards d'euros. La fourchette est large parce que, évidemment, les modèles de prévision dépendent de si on a un réchauffement de 1 degré ou de 4 degrés. Mais dans tous les cas, c'est tout sauf anecdotique.
Je regarde à nouveau ta carte, Lucas, et je me rends compte au passage qu'on n'a pas choisi l'ordre le plus logique en termes de distance parcourue. Le dernier point est tout à l'est, près de Grenoble.
Oui, mais c'est logique du point de vue du sens. C'est-à-dire que là, on va en parler beaucoup cet hiver. Donc, ce lieu, c'est Villard-de-Lans. C'est une station de ski dans le Vercors. Mmh. Et là aussi, il y a un problème qui va se manifester, mais donc surtout en hiver. C'est une station de moyenne montagne à des altitudes de 1100 à 2100 mètres. Il y a des effets déjà sur l'enneigement du réchauffement climatique. Donc, en fait, dans cette station, on utilise des enneigeurs déjà depuis des décennies et on va devoir en utiliser de plus en plus à l'avenir, puisqu'à cause du réchauffement, finalement, la neige tient moins bien, elle part plus vite. Et déjà sur place, on estime qu'il y a une urgence déjà à préparer, d'ici 20 ans, à préparer la station à cette réalité-là.
Et comment on l'anticipe, cette réalité-là ?
Ben, y a une grande campagne de diversification déjà pour assurer une activité 10 mois sur 12. Et ça va passer par des remontées mécaniques l'été pour les randonneurs, des activités pour les cyclistes, les parapentes, ce qu'on appelle le tourisme d'affaires aussi. Il y a aussi voilà, une mise en place d'une piste de ski-roue pour permettre l'entraînement des amateurs et athlètes du biathlon sur la période de l'été. Donc là, on est davantage sur une question de survie économique du territoire, mais ça te montre à quel point le spectre est assez large.
En effet, tu peux ranger ta carte, Lucas. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Moi, pendant ce temps-là, j'ouvre l'armoire parce que j'ai quelque chose à te faire écouter.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Évidemment, les seuils évoluent en fonction des événements extrêmes. Mais la question, c'est comment se préparer à la prochaine catastrophe, alors même que, justement, celle que l'on a connue était tout simplement du jamais vu.
En t'écoutant lister les pistes d'adaptation déjà mises en œuvre, Lucas, j'ai repensé à cet épisode avec Valentin Eckirch. Il nous expliquait la difficile reconstruction dans la vallée de l'Ahr en Allemagne, après les crues mortelles en 2021, la problématique de l'anticipation des phénomènes voués à être toujours plus impressionnants. Est-ce qu'elle s'applique aussi en France ?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un des écueils des modèles aujourd'hui d'adaptation qu'on utilise. C'est-à-dire que ce sont des modèles qui, c'est le Haut Conseil pour le Climat qui le dit, qui part un peu au plus précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile de se projeter de ce qui va être le futur en termes de réchauffement climatique. Et en fait, le Haut Conseil pour le Climat, ce qu'il dit, c'est que dans un climat qui change, la gestion des crises qui se succèdent ne peut se réduire à des réponses ponctuelles. C'est-à-dire que, tu connais l'ancienne, il faut prévenir plutôt que guérir. Mmh. Et là-dessus, ça vaut aussi pour les solutions. On ne sait pas quoi l'avenir sera fait. Il faut surtout pas foncer tête baissée. Je te prends l'exemple des forêts. Aujourd'hui, il y a plein de débats sur est-ce qu'on doit importer des essences de bois qui sont aujourd'hui mieux adaptées à la sécheresse, donc les essences de bois qui sont plus méditerranéennes. Les spécialistes, ils disent oui, peut-être, mais ils ne sont pas sûrs parce qu'encore une fois, ils ne savent pas d'ici à 2100 quel va être le réchauffement climatique. Donc ça, c'était un des premiers écueils.
Un des premiers écueils, quels sont les autres ?
Ben, il faut des solutions globales et dans lesquelles on pense aussi les externalités négatives des mesures d'adaptation. Je vais reprendre l'exemple des méga-bassines. On en a beaucoup parlé cet été. Donc ces bassines sont utilisées par les agriculteurs pour compenser la sécheresse et donc ils accumulent l'eau de pluie pour ensuite pouvoir l'utiliser pour irriguer leurs champs. Alors certes, ça va aider ponctuellement ces agriculteurs-là, donc c'est une mesure d'adaptation à la sécheresse, mais cette eau qui a été récupérée, elle ne va pas aller dans les nappes phréatiques, donc elle ne va pas contribuer à recharger les nappes phréatiques, mais aussi les fleuves qui sont aux alentours. Donc voilà, on a l'exemple là d'une mesure qui peut paraître intéressante d'un point de vue adaptation, mais qui a des impacts néfastes d'un autre côté sur le niveau de sécheresse global de la société. Donc ça, c'est penser le phénomène de façon globale. Et il y a un autre problème, donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre.
L'argent, j'imagine ?
Ouais, c'est exactement ça. L'adaptation, ça coûte cher. À Lyon, par exemple, 44 millions qui ont été votés pour la végétalisation de la métropole en juin dernier. Il y aura 141 millions voilà, qui seront votés d'ici 2026 pour la ville. En Charente, le programme d'action de prévention des inondations qui s'appelle PAPI, sur 500 km de littoral, c'est 250 millions d'euros. Donc voilà, c'est des factures qui sont systématiquement assez importantes. Et d'ailleurs, dans une étude qui a été publiée fin juin, qui fait un peu référence dans ce domaine, c'est l'Institut pour l'économie du climat. Elle estimait qu'il fallait investir au bas mot près de 2,3 milliards d'euros supplémentaires par an par rapport à ce qui était déjà investi pour finalement, on va dire, agir efficacement sur cette question de l'adaptation.
Et qui paye ces factures ?
Ben, ça dépend en fait. Voilà, à La Rochelle, Rochelle, il y a déjà une taxe qui a été mise en place cette année, donc une taxe locale qui permet voilà, de financer ces travaux d'adaptation. Et en fait, cette taxe, on imagine qu'elle va augmenter à mesure que les effets seront de plus en plus importants et à mesure du réchauffement climatique. Donc ça, c'est la première chose. Il y a les collectivités territoriales qui financent, l'État finance aussi un peu. Donc, mais globalement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un manque de visibilité sur qui doit s'occuper de quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est même le Haut Conseil pour le climat qui le dit, hein, il y a un problème de montée en compétence des collectivités territoriales, il y a un problème de centralisation de la donnée, c'est-à-dire qu'on a un plan national d'adaptation au changement climatique, mais la façon dont il est décliné dans les territoires, ça ne se fait pas toujours de façon efficiente, efficace. Donc ça, c'est aussi un sujet à régler.
Mais tu disais au début de ce podcast que des manifestations très concrètes de ces risques, comme celles qu'on a vues cet été, pourraient peut-être changer les choses.
Oui, parce que juste ici, l'adaptation s'était vue comme une assurance contre un risque potentiel qui se réalise ou qui ne se réalise pas. On a vu cet été que ce risque, il se réalise et il va se réaliser de façon de plus en plus importante à l'avenir. Et surtout, ce dont on se rend compte, c'est que le coût de l'inaction est beaucoup plus cher que le coût de l'action, c'est-à-dire le coût de la mise en place des mesures d'adaptation. Donc ça vaut évidemment pour les incendies, hein. Il va falloir dédommager tous les campings, les activités économiques voilà, en Gironde qui ont été touchées. Ça vaut aussi pour la Charente maritime, c'est-à-dire que le coût aujourd'hui estimé par les assureurs de la tempête Xynthia est estimé à 1,5 milliard d'euros. Donc on se rend bien compte que là, le coût de l'inaction est beaucoup plus cher que si on avait mis en place les dispositifs qui permettaient de prévenir ces dégâts-là.
Le coût de l'inaction contre le coût de l'adaptation, on a bien compris la problématique. Merci beaucoup, Lucas.
Merci, Xavier.
Lucas Mediavilla du service économie de l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr ainsi que tous ceux de nos reporters aux quatre coins de la France cet été. Ça vaut le coup de s'abonner pour les lire, d'autant que ça ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous envoyant un mail à laloupe@l'express.fr ou en nous laissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcasts, Spotify ou Castbox par exemple. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines comparaisons animalières et surtout nos prochains décryptages. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.